L'interview Maïmo, Corentin Brabant sur Radio Immo.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Immo, bienvenue dans cette toute nouvelle émission intitulée L'interview, une émission produite par Maïmo. Alors le concept est simple, chaque mois nous recevons le dirigeant d'une entreprise qui innove et se réinvente au quotidien. Et alors pour ce tout premier numéro de l'interview, j'ai le plaisir de recevoir Benoît Henbel qui est le directeur général adjoint de SIA Habitat, bailleur social bien connu dans les Hauts-de-France avec pas moins de 45 000 logements. Bonjour Benoît.
Bonjour Corentin.
Eh bien Benoît, déjà un grand merci d'avoir accepté de venir échanger avec nous, surtout pour ce premier numéro.
Ben, je t'en prie.
Ouais, merci en tout
merci
cas d'être là.
Merci à toi de nous recevoir.
Alors Benoît, on va bien sûr parler de SIA et comment avec tes équipes vous transformez la façon de faire le métier. Mais avant, j'aimerais qu'on refasse un petit peu ton parcours pour mieux te connaître. Alors je sais que c'est parfois pas agréable pour les invités, mais ça va être une tradition et c'est important de derrière le dirigeant connaître un petit peu l'homme et le parcours. Alors Benoît, t'as grandi dans le Nord, t'es un vrai ch'ti pure souche, hein, on peut dire ça comme ça. Après ton bac, tu fais une prépa HEC. Ensuite, tu intègres l'EDEC, une très grande école de commerce qui est peut-être derrière TBS, mais ça c'est du private. Tu commences ta carrière chez Eurogroup dans le conseil. Ensuite, tu rejoins Géophil pendant 4 ans où tu fais du montage d'opérations immobilières. Après, tu fais un passage chez Logé Habitat en tant que responsable développement où tu développes des programmes d'habitation pendant 3 ans. Et ensuite, tu rejoins Naudi qui est devenu Nood pendant près de 7 ans et là, tu travailles sur les réhabilitations et les transformations de quartier. Et tu arrives ensuite chez SIA où tu as pris le poste de DGA depuis bientôt 3 ans. J'ai envie de dire quand même sacré parcours. On peut dire ça comme ça. Mes premières questions, d'où ça te vient cette appétence pour l'immobilier?
C'est le fruit du hasard. Quand j'étais étudiant effectivement à l'EDEC, je cherchais un stage dans l'environnement du sport et je devais partir à l'étranger. Et donc j'ai envoyé une bouteille à la mer à Decathlon aux États-Unis. Et il se trouve qu'ils n'avaient pas de poste sur des fonctions plutôt marketing, qui me semblait plutôt évident à l'époque. J'avais fait des premiers stages dans le marketing sportif. Mais en revanche, ils avaient une proposition en immobilier. Alors, j'y connaissais absolument rien. Mais je me suis dit, bon, c'est l'occasion de partir un an à Boston, dans un environnement autour du sport, autour des problématiques d'entreprise assez intéressantes. Et puis, l'immobilier, chez un grand distributeur, c'est une fonction qui est assez centrale, hors le métier core business du retail. Et je trouve que ça m'a beaucoup plu, puisque c'est un métier qui est extrêmement... multi-compétences, assez polyvalents. On a des quotidiens qui ne se ressemblent pas d'un jour à l'autre. Et donc, c'est tombé par pur hasard.
T'es tombé dans la marmite, pas dans le plus jeune âge, mais assez rapidement au final.
Assez rapidement et complètement par hasard. Et j'en suis ravi.
Hyper intéressant. Et alors, du coup, tu fais une bonne première partie de ta carrière dans l'habitat privé. Et là, t'es arrivé chez SIA, bailleur social. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué en arrivant dans une entreprise comme SIA par rapport au ton parcours dans le privé?
Alors, d'abord, il faut préciser que SIA est une entreprise sociale pour l'habitat. Donc, c'est une entreprise absolument privée, détenue pour partie par le groupe Habitat en Région, qui est une filiale de BPCE, et par la Caisse d'épargne Hauts-de-France. Donc, à ce titre, on a évidemment une mission d'intérêt général et une vocation sociale. Mais on a, comme toute entreprise privée, une logique et des modèles qui sont privés. La particularité, je dirais, des entreprises sociales pour l'habitat, c'est que nous devons évidemment chercher à avoir un modèle qui soit rentable et cette rentabilité, elle sert en intégralité au réinvestissement dans des sujets d'accompagnement social, dans des sujets de développement, dans des sujets de réhabilitation. Donc on est à un modèle un petit peu hybride entre ce qu'on peut imaginer du bailleur social qui est une fonction publique. On est là plutôt sur des offices publics HLM et une entreprise totalement privée dans d'autres secteurs d'activité. Moi, ce qui m'a tout de suite convaincu lors des premiers échanges et puis quand je suis arrivé chez SIA, c'est que c'est une entreprise qui est à la fois centenaire mais qui est tournée vers l'avenir. C'est une entreprise qui a, pour les 630 collaborateurs qui la constituent, le sens de l'intérêt général qui est absolument chevillé au corps. On fait notre métier pour des clients, pour des locataires, pour qui ont la particularité d'être logés avec des conditions de ressources. Donc, on s'intéresse d'abord et avant tout aux plus fragiles. Mais c'est vraiment le sens de l'intérêt général. Ce qui peut être aussi intéressant, mais ce que j'avais retrouvé déjà en travaillant pour l'environnement de l'association familiale Mullier, c'est le rapport au temps. On est sur des entreprises qui laissent le temps, qui visent on va dire, le développement à long terme, et donc qui accepte parfois des temps un peu plus compliqués, mais qui sont là pour le long terme. Ce qui m'a rassuré, malgré ce que je disais tout à l'heure, les clichés qu'on pouvait avoir sur des entreprises sociales, c'est qu'il y a quand même une culture financière assez forte. Mmh. Je pense que notre actionnaire n'y est pas étranger, mais malgré tout, dans les fondamentaux de l'entreprise, il y a ce caractère social qui est absolument marqué. Mais il y a une culture financière qui nous permet aujourd'hui d'affronter les défis du 21e siècle, à la fois pour la satisfaction de nos clients, ce qui est absolument, ce qui est notre première mission naturellement, mais également dans la satisfaction client, il y a de pouvoir aussi répondre à la demande de logements sociaux. Il faut savoir qu'il y a à peu près 220 000 demandes de logements sociaux dans les Hauts-de-France qui sont non pourvues. Et cette demande est croissante, donc ça veut dire qu'on est encouragé à continuer à produire. Avec des notions de rationalité économique, je le disais tout à l'heure. On est invité, comme l'ensemble des propriétaires de bâtiments, à avoir des bâtiments qui soient de plus en plus vertueux, donc des logements de plus en plus vertueux. Le monde HLM a pris de manière absolument massive le sujet de la réduction des étiquettes énergétiques dégradés, ouais, les fameux E, F et G que l'on voit sur les DPE et je veux dire que le monde HLM de manière générale est plutôt en avance par rapport à la résorption de ces étiquettes énergétiques dégradées. Il se trouve que SIA est encore plus en avance, d'une part parce qu'on a une cartographie énergétique qui est extrêmement à jour. On s'est donné les moyens aujourd'hui d'avoir plus de 95% de notre parc qui est identifié sur la cartographie énergétique avec les DPE de dernière génération, parce que comme la législation a évolué, on joue un peu avec nos nerfs parfois sur ces sujets-là. Il a fallu tout recommencer, mais on est un des premiers bailleurs, les plus avancés en la matière. Et notre calendrier de réhabilitation nous permettra d'être conforme à la législation. Donc voilà, il y a ce rapport au temps, ce sens de l'intérêt général et du service apporté aux clients. Et en même temps, il y a une forme d'orthodoxie financière qui a quand même, à titre personnel, moi qui me rassure, c'est quand on a besoin de financement externe, qu'on n'est pas complètement indépendant, qu'on est parfois amené à faire des choix qui sont pas forcément pour l'intérêt propre de l'entreprise et de ses clients. Donc c'était une vraie marque d'intérêt. Et puis le dernier sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est vrai que c'est une entreprise qui a un champ d'innovation qui est extrêmement large, avec une équipe dédiée sur ces sujets-là, mais aussi qui irrigue les autres pans de l'entreprise. Comme toutes les entreprises, on a des défis digitaux qui sont extrêmement importants. Je dois reconnaître que le monde HLM n'est pas forcément le plus outillé en termes de digitalisation de la relation client, du monde aux actionnaires bancaires.
Comment ça se fait là justement? Pourquoi est-ce que le monde du logement social, on a l'impression qu'il est parfois moins outillé que les entreprises privées? C'est dû à quoi selon toi?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Alors, déjà, il faut peut-être regarder plus en détail. C'est vrai que on connaît nos clients parce que on a une relation de proximité. Oui. Et finalement, tu le disais tout à l'heure, on a donc 44 000 logements, bientôt 45, j'espère, mais en tout cas
44 672.
Voilà,
c'est ça. Mon chiffre.
L'année prochaine, on aura dépassé les 45 000. Ça veut dire 94 000 clients. Familles, habitants dans nos logements. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Hein. Ouais. Je faisais référence tout à l'heure à Decathlon, mais toutes les boîtes de distribution ont beaucoup plus de clients, etc. etc. Ouais. Donc, la notion du service client, elle est d'abord et avant tout par nos collaborateurs qui sont en proximité, dans nos agences, dans nos directions territoriales, nos personnels qui font de la gestion, qui font tout ce qui est quittancement de loyer. Ouais. Donc, il y a évidemment un outil de gestion qui est extrêmement fiable et développé. En revanche, sur toute la partie digitalisation, je pense que ça faisait pas partie forcément des priorités. C'était pas forcément une attente aussi de nos clients jusqu'à il y a quelques années. Il y a des défis technologiques qui sont à surmonter, aussi une évolution technologique qui est extrêmement importante.
Qui va vite.
Qui va très vite. On le voit, ne serait-ce que pour faire le parallèle avec notre actionnaire bancaire, c'est vrai que les portails clients, la difficulté que ont leurs clients à se déplacer en agence ont fait qu'ils ont dû se réinventer sur ces sujets-là. Nous, on a un centre de relations clients qui est extrêmement performant, qui est extrêmement fourni. Mais c'est vrai que la partie outils était moins une priorité parce qu'on écoute nos clients et que nos clients, ils nous attendent plus sur la manière dont on va entretenir leur logement, dont on va les accompagner sur certaines problématiques sociales, par exemple, et pas forcément sur le côté fun.
Oui, bien sûr, il ne faut pas que ce soit gadget.
Et je dois dire que du coup, les sujets innovation, ils sont plus sur l'innovation sociale, sur la manière dont on peut développer des produits et des projets qui répondent aux attentes de nos clients, la manière dont on accompagne l'évolution démographique des territoires sur lesquels on intervient, la manière dont on construit de manière de plus en plus vertueuse, la manière dont on produit de moins en moins de déchets, la manière dont on maîtrise nos émissions de carbone. Et c'est là où on va peut-être un peu plus investir aujourd'hui.
Et puis c'est là où on voit que vous êtes très innovant, parce que vous n'avez pas attendu que justement la réglementation impose tous les travaux qui devaient être faits sur les F, E et G, et vous avez anticipé et pas attendu que les législations imposent. Donc ce qui fait que vous êtes plus en avance par rapport à d'autres, c'est cette culture aussi d'innovation que vous avez toujours eue. En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu au sein des SIA. Et comment justement ça se traduit au quotidien, pour revenir sur cette culture d'innovation, dans les équipes et dans les projets?
Alors au quotidien, je pense qu'il y a d'abord une volonté de la direction et les évolutions de direction générale successives n'ont pas diminué cette ambition, bien au contraire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut s'en donner les moyens. Donc, on a une équipe qui est dédiée à ces sujets d'innovation, qui sont un peu des avant-gardistes. C'est ceux qui vont regarder ce qui se passe ailleurs, qui vont essayer de filtrer, de condenser, d'essayer de voir dans quelle mesure les sujets d'innovation, d'où ils viennent, comment ils peuvent être priorisés ou sélectionnés et développés chez SIA, comment ils répondent à un réel besoin de la stratégie de l'entreprise. Donc, on a une équipe, je disais, dédiée sur tous les métiers, que ça soit l'ingénierie sociale, l'ingénierie énergétique, la RSE naturellement, et également ce couple entre des équipes dédiées et une volonté de la direction dont je fais partie fait que naturellement il faut trouver des relais dans l'entreprise, et donc on retrouve des collaborateurs qui s'impliquent dans des projets un petit peu transverses, qui prennent une partie de leur temps pour évidemment se former, parce que la culture de l'innovation, ça nécessite aussi un peu de formation pour développer aussi un sens critique. On a 1000 choses qui peuvent nous être présentées. On a la chance d'aller chaque année au congrès HLM et il y a une bonne partie du congrès HLM qui est dédiée à cet environnement de start-up, de nouveaux services, etc., etc. Il y a évidemment des choses très intéressantes, mais il y a aussi un peu de tri. Ouais. D'abord du tri par rapport à la pertinence des outils et puis surtout par rapport aux stratégies de l'entreprise. Donc c'est important d'avoir, comme je le disais tout à l'heure, cette structure qui vise le long terme, donc des stratégies qui peuvent être posées, et donc du coup d'avoir, je pense que c'est plus facile pour des collaborateurs qui travaillent sur des sujets d'innovation d'avoir une stratégie qui est poussée sur le long terme. Ça évite les modes et puis l'arrêt de ces modes, en tout cas dans nos métiers, parce qu'on est quand même sur des métiers de temps long, ne serait-ce que sur la partie patrimoniale et immobilière. C'est important d'avoir une santé financière qui nous permette d'aller travailler certains sujets. Forcément, dans tout sujet d'innovation, mais il y a le temps de l'expérimentation. Mmh. Souvent, c'est peut-être un peu plus cher, et puis on voit le retour sur investissement sur le plus long terme. Et puis de la compétence métier dans notre DSI, chez nos gestionnaires locataires, dans les métiers de territoire, et puis dans les métiers de la maîtrise d'ouvrage et du patrimoine que je représente, où les gens s'intéressent à ce qu'est l'actualité de leur métier, les évolutions réglementaires et comment on essaye de mieux y répondre, adapter à nos problématiques locales. L'éradication des étiquettes énergétiques, c'est un très bon sujet. Certes, ça s'applique à tout le monde, que ce soit de Marseille à Dunkerque et de Brest à Strasbourg, c'est une chose. Mais comment nous, en fonction des caractéristiques de notre patrimoine, en fonction des caractéristiques sociales de nos clients et de notre capacité à faire et du dimensionnement des équipes, on arrive à résorber ces étiquettes énergétiques, on arrive à faire ça avec un peu d'innovation qui nous permet aussi de réfléchir à comment construire autrement demain. Voilà, c'est un peu la recette. Elle n'est pas miracle, en tout cas, elle nous est propre et bien adaptée, je pense.
Et puis, vous le faites, vous innovez aussi avec d'autres, puisque vous faites partie d'autres réseaux, d'autres groupements. Forcément, je vais te parler de Maïmo, puisque SIA est un membre très actif au sein de Maïmo, hein, qui est le premier pôle d'innovation technologique et sociale de l'immobilier. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que vous faites au sein de Maïmo? Et de ce que ça vous apporte?
On est rentré dans le réseau Maïmo il y a 2 ans maintenant, parce qu'on en avait envie d'une part, ça c'est la première des choses, mais surtout parce qu'on nous a donné l'opportunité d'y rentrer. Je pense évidemment au comité des associés fondateurs, et notamment un de nos confrères qui a bien voulu, alors qu'on était potentiellement concurrent, qui a bien voulu nous faire une place sur dans ce réseau-là. Il faut savoir que, je disais tout à l'heure, on a un modèle économique qui est assis entre l'environnement social et une logique privée, dans le sens où on s'efforce d'être au moins à l'équilibre et tirer un peu de rentabilité. Comme on a une mission d'intérêt général, on est soumis au code des marchés publics, ce qui fait que ça encadre quand même les choix, les enveloppes, les possibilités sur des sujets d'innovation. Et le fait de rentrer dans ce réseau, dans ce cluster, ça nous permet évidemment de partager un certain nombre d'expériences, de retours d'expérience. Ça nous permet de partager un certain nombre de cas d'usage et avec des secteurs d'activité qui sont connexes, qui sont globalement tournés autour de l'immobilier. Ça, c'est une chose, mais pas forcément directement au quotidien d'un bailleur social. Des promoteurs, des gestionnaires, des administrateurs de biens, des foncières également. Et donc les problématiques qu'on peut rencontrer, peut-être que d'autres l'ont rencontré, et la manière dont ces confrères peuvent solutionner un certain nombre de problèmes, ça nous permet, ou d'enjeux en tout cas, ça nous permet aussi peut-être de réfléchir un petit peu différemment sur la manière dont on peut s'y prendre par rapport à une problématique qu'on peut rencontrer. Donc ça, c'était une vraie motivation, et de pouvoir enrichir aussi notre palette de compétences, ce qui est, on en parle pas toujours beaucoup, mais ce qui est extrêmement riche chez Maïmo, c'est aussi tout ce socle de formation commune. Nous, chez SIA, on alloue évidemment beaucoup d'heures de formation à nos collaborateurs. C'est intéressant quand ces formations, elles sont pas forcément des choses très descendantes, mais elles sont aussi dans du partage quand c'est des collaborateurs d'autres entreprises qui ont les mêmes métiers, d'une certaine manière les mêmes quotidiens, viennent aussi parler des programmes de formation que eux ont reçus ou qui peuvent partager des retours d'expérience. Je pense que c'est assez riche de ce point de vue-là. Et le dernier sujet, naturellement, c'est de pouvoir être au contact des startups. C'est vrai que travailler en collaboration avec les startups, la notion de coopération, on l'a beaucoup avec l'environnement public, que ce soit avec les préfectures, les collectivités locales et les mairies, dans notre ingénierie sociale, avec le monde associatif également, mais sur toute la partie un peu hard, on va dire. C'est plus difficile à appréhender culturellement pour un bailleur. Et le fait d'être dans un réseau où il y a peut-être un petit peu plus de liberté, où on s'autorise un petit peu plus de choses parce qu'on a un cadre qui est peut-être un peu moins contraint, ça nous permet de voir ce qui peut se passer et ce que notamment des jeunes ou des moins jeunes ont envie de créer comme entreprise, sur quelles problématiques et à quelle problématique ils ont envie de répondre en créant leur boîte.
D'ailleurs, justement, c'est intéressant ce que tu dis sur le sujet startup, parce que on a vous accompagné depuis cette année une startup qui s'appelle Block to Build. On est allé rencontrer justement Camille, la cofondatrice de Block to Build. Ce que je te propose, c'est qu'on écoute un petit peu l'interview et les questions qu'on lui a posées, et puis après on en débrief si ça te va. Camille, vous êtes la cofondatrice de la société Block to Build. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre société?
Merci beaucoup. Alors, avec plaisir. Donc, Block to Build, c'est en fait une société qu'on a montée il y a un an, sur la base du constat, en fait, que la construction bas carbone et circulaire dans l'immobilier doit devenir la norme. La transformation du secteur, elle est déjà en cours. Mais ce qu'on pense chez Block to Build, c'est que ça peut aller encore plus vite. Et que pour y parvenir, on doit arrêter, en tout cas, éviter de repartir à zéro sur chaque projet et accélérer l'adoption des solutions décarbonées et circulaires, donc que ce soit les matériaux à faible impact, éviter d'intégrer des matériaux inutiles, intégrer des procédés réversibles ou des solutions aussi plus industrialisées.
D'accord. Et donc, du coup, vous faites un peu un panorama au-dessous de toutes les différentes possibilités de matériaux différents pour justement ouvrir un peu le champ des possibles et arrêter de faire de manière traditionnelle avec du neuf. C'est bien ça, si j'ai bien compris?
Alors, ce qu'on fait concrètement, c'est en fait, on essaye de rendre la conception la plus simple, la plus industrialisée et la plus collective possible. Donc, on fait à la fois de la capitalisation sur les bonnes pratiques pour éviter de réinventer constamment sur chaque projet. On essaye d'aligner la conception avec les standards des industriels, des fournisseurs et des entreprises travaux. Et du coup, on facilite donc l'adoption des solutions bas carbone sur chaque projet, avec exigence sur le résultat et sans dogmatisme sur le choix des solutions. Et donc, pour ce faire, en effet, on développe en fait ce qu'on appelle, nous, une bibliothèque de blocs paramétriques. Donc, en fait, on décompose le bâtiment en petits morceaux. Et ces petits morceaux-là, on les rend configurables, intelligents. Et on intègre donc toutes ces données techniques, réglementaires et environnementales.
Nouvelle façon totalement d'imaginer la conception et la construction des bâtiments. Alors, vous venez d'être sélectionné par Maïmo, hein, qui, je rappelle, permet aux startups de lancer des expérimentations avec les entreprises membres. Je voulais savoir, alors vous êtes accompagné aujourd'hui par SIA Habitat, hein, un des partenaires de Maïmo. Qu'est-ce que vous attendez de cet accompagnement? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Ou peut-être, qu'est-ce que vous faites déjà avec eux?
Donc en effet, on travaille avec SIA Habitat. On a donc choisi avec eux un des bouts du bâtiment qui leur pose le plus de problèmes en phase de conception, que sont les cuisines. Et donc, comme je vous le disais, on regarde sur les cuisines quels sont les axes d'amélioration par rapport à leur cahier des charges de conception existant. Et on vient en fait faire une synthèse à la fois réglementaire, technique, de la synthèse entre l'eau, de la synthèse de leur cahier des charges, pour leur livrer, in fine, à la fin de cette expérimentation, une sorte de cuisine paramétrique qui va permettre de s'adapter à tous les cas de figure en phase de conception. Et donc, ce sera un outil qui pourra être utilisé par leurs partenaires en maîtrise d'œuvre, donc notamment les architectes, de manière à ce que toutes les cuisines intégrées au projet SIA reflètent d'une part leur cahier des charges, et également cette fameuse synthèse réglementaire, la NFC 1500, le PMR, etc., de manière à ce que ce soit le plus facilement intégrable dès le début du projet.
Et d'après ce que nous ont dit SIA, c'est plutôt très encourageant et ils sont ravis en tout cas de travailler avec vous.
Juste petit mot aussi, on est en pleine discussion également avec les équipes de IDL et de Rabot du Tilleul pour voir s'il n'y aurait pas d'autres cas de figure de leur côté, donc d'autres petits morceaux du bâtiment sur lesquels ils voudraient travailler pour optimiser leur cahier des charges et donc parvenir à avoir aussi ces blocs paramétriques côté Rabot et IDL.
Ouais, voilà des expérimentations très prometteuses à suivre en tout cas. Un grand merci Camille Bertin d'être venue nous présenter votre entreprise Block2Build. C'était Camille Bertin, la cofondatrice de Block2Build. Alors, du coup, Benoît, juste avant de partir dans le détail, mais pourquoi à la base vous aviez aussi décidé d'accompagner Block2Build?
Alors, il faut savoir que au mois de novembre, traditionnellement, c'est la deuxième start-up qu'on accompagne. On a la chance d'avoir une vingtaine de cofondateurs ou de fondateurs d'entreprises, de start-upers, même si le mot est un peu galvaudé, qui viennent pitcher devant nous avec des projets souvent intéressant, parfois assez éloigné de notre métier. Ce qui était assez intéressant avec Camille, elle en a parlé dans le reportage. Nous, on a donc, je disais, on a une stratégie climat sur laquelle on bosse, on réhabilite nos logements pour réduire l'impact carbone. On essaye aussi de faire en sorte que les futurs logements que l'on crée aient un impact carbone qui soit de plus en plus faible. Ça fait déjà un petit moment qu'on travaille sur l'économie circulaire. Aujourd'hui, c'est un sujet qu'on arrive plutôt bien à adresser sur la réhabilitation, où on a globalement plus de 80% des déchets issus de la réhabilitation qui partent dans les filières d'économie circulaire, soit en réutilisation sur site, des sanitaires, du chauffage, etc., etc., des portes, soit ça part dans les filières ou externes, mais en tout cas, on arrive à l'adresser. Sur le neuf, c'est toujours un peu plus compliqué parce que le cadre réglementaire est un peu plus restrictif. Et je le disais tout à l'heure, nous, on marche sur deux, en tout cas chez Habitat et Patrimoine, donc au sein des SIA. Il y a deux sujets qui nous taraudent quand on se lève le matin. C'est un, la satisfaction client, et deux, la pérennité de notre patrimoine. On investit globalement pour au moins 60 ans. Notre entreprise est centenaire. On a la moitié de notre parc qui a été construit dans les années 20 ou dans les années 50, dans les cités minières. Et donc, c'est extrêmement important de voir sur le long terme. Et le sujet de la cuisine, il est assez symptomatique aujourd'hui d'un bloc technique qui est souvent, pas mis de côté, mais en tout cas, qui répond à une fonction technique. C'est-à-dire qu'on essaye de faire passer des bouts de mur et des tuyaux, enfin, autour de certains bouts de mur, des tuyaux. On doit y poser potentiellement le système de chauffage ou en tout cas la centrale de production de chauffage. Il y a des gains techniques quand on est dans des immeubles collectifs, dans des résidences qui vont de bas en haut pour évacuer les eaux usées ou qui ramènent l'eau propre dans les étages supérieurs. Et donc, ces quelques mètres linéaires de cuisine, ils sont souvent le parent pauvre. Or, on sait que c'est un lieu de vie extrêmement important pour nos locataires, parce que il y a évidemment une fonction pour se nourrir, mais il y a aussi une fonction de vie sociale. Il y a une fonction qui, la table, elle peut servir aussi de table de devoir pour les enfants.
D'éducation pour les enfants aussi, hein, rappelons-le.
D'une certaine manière. Oui, puisqu'on peut apprendre les mathématiques en faisant de la pâtisserie, par exemple. mais, et on a aussi, la plupart des fournisseurs de cuisine qui sont quand même sur des dimensions assez standardisées. On sait qu'un lave-vaisselle, qu'un four, qu'une plaque de cuisson, globalement, ça fait toujours à peu près 60 centimètres. Et que quand on arrive dans un logement qui est livré en neuf, on a rarement un multiplicateur de 60 cm qui est en mètres linéaires. Où les tuyaux sont pas au bon endroit, les prises également, etc., etc. Et donc, on se dit, à un moment, ce lieu-là, qui est extrêmement stratégique pour la vie sociale de la qualité de vie de nos clients, il est aussi extrêmement compliqué à concevoir, parce qu'il y a des bureaux d'études, il y a des architectes, il y a des entreprises, différents corps d'État qui vont intervenir dans ce bloc-là, le maçon, le plombier, etc., etc. Et globalement, chacun y va de son propre, sa propre contrainte, et que le résultat final n'est pas toujours satisfaisant. Sauf que si on souhaite mêler la qualité d'usage à l'optimisation en termes de conception, donc en termes de carbone et en termes financiers, ben, y a un moment, se faire challenger par un collectif de personnes qui ont plutôt la tête bien faite, qui ont travaillé dans des grandes entreprises qui sont reconnues pour leur ingénierie et qui se décident de se lancer. On s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et comme l'année précédente, parce que je vais en parler, on avait misé, alors pour le coup, il était un peu moins jeune, mais il était extrêmement pertinent sur une entreprise qui s'appelle Assisto, qui nous a beaucoup aidé sur l'analyse, la manière dont on analysait nos DPE, et on pouvait aussi optimiser les bouquets de travaux et intervenir sur les bons endroits en termes de, pour réhabiliter thermiquement et énergétiquement nos logements. Ben, on s'est fait à peu près confiance de la même manière.
Oui.
Et aujourd'hui, on est ravis de ces deux partenariats et surtout de voir les avancées que Block2Build, avec cette réflexion très très cadrée, peut nous aider. Et donc aujourd'hui, c'est à la fois chez nous, c'est le travail collaboratif d'une chef de projet sur tout ce qui est performance énergétique, et également un collaborateur qui travaille dans la direction de la maîtrise ouvrage neuf, qui a 20 ans, ou enfin, qui a même plus, qui a 25 ans d'ancienneté chez nous, donc qui a construit des centaines, voire des milliers de logements pour SIA, donc il connaît particulièrement bien son métier, et qui aujourd'hui travaille sur la manière dont on peut aussi reprendre la main auprès de nos partenaires, nos bureaux d'études, etc., pour dire, ben voilà, nous, chez SIA, le module de cuisine, et du coup, l'idée, c'est que ça fasse un peu tache d'huile, hein, parce qu'à partir du moment où on a bien conçu techniquement ces environnements-là. La cuisine, la salle de bain, c'est des lieux qui sont assez stratégiques. Et ben, le reste doit pouvoir s'emboîter d'une certaine manière le plus évidemment du monde.
Et on arrive bientôt, hein, ça va vite, bientôt au terme de l'émission. Mais avant, justement, là, pour résumer, hein, je vois que vous innovez énormément sur les sujets relations clients, sur les sujets performance énergétique, sur le numérique. C'est quoi, selon toi, les grands enjeux qu'il faut regarder maintenant, qui vont avoir un impact d'ici une dizaine d'années? Voilà, c'est quoi là les petits sujets à ouvrir chez SIA? Ou alors, il y a peut-être un peu de confidentialité, mais
non, mais les sujets qui ont déjà été ouverts aujourd'hui, et on travaille aussi avec nos actionnaires par la création de filières, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais Habitat en région, donc groupe PPCE, c'est une dizaine de bailleurs, c'est plus de 250 000 logements gérés à travers la France, particulièrement dans le sud de la France, à Paris et dans les Hauts-de-France. C'est des sujets autour de la satisfaction client. Comment des clients qui deviennent de plus en plus exigeants parce que dans le reste de leur vie, on leur apporte de plus en plus de services pour le moins en moins d'argent, entre guillemets. Donc la valeur ajoutée de l'action, elle doit être de plus en plus renforcée. Public qui vit dans un environnement qui est quand même sacrément secouant en ce moment. Ouais. Donc satisfaction client, sujet majeur, et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler parce que ça doit être le leitmotiv de l'entreprise. La stratégie climat et comment on arrive, alors qu'on n'est quand même pas le secteur d'activité le plus évident à traiter sur le zéro net carbone à 2050. Aujourd'hui, on construit, on réhabilite et on exploite des bâtiments. Donc, instinctivement, on émet de toute façon du carbone, mais comment on essaye d'en émettre le moins possible, comment on arrive à chez SIA, donc c'est où, tu l'as dit tout à l'heure, c'est 44 000 logements, c'est 34 000 chaudières individuelles gaz. Bah, comment on opère une partie de transformation de ces logements-là pour plus d'électricité décarbonée, etc., etc. Et puis, il y a des sujets de data qui sont extrêmement importantes. 44 000 logements, c'est autant de data. L'idée, c'est pas d'en faire usage, comme certaines grosses boîtes américaines et de marchander ça, mais malgré tout, cette data, elle a une valeur justement pour servir les deux sujets précédents. Monitorer la data, c'est savoir combien de tonnes de carbone émet chaque logement dans sa trajectoire 2050, donc comment on l'exploite, cette donnée, pour essayer de remplir cet objectif. Et puis la data client, pour essayer de faire en sorte que notre client, quand il nous appelle, on est de plus en plus de capacité à le satisfaire dans ses moindres demandes.
Puis à l'orienter, à le conseiller sur sa façon de consommer l'énergie, sur sa façon de vivre, pour qu'il puisse vivre bien.
Ben merci beaucoup en tout cas, Benoît, pour ce partage. C'était vraiment chouette de t'accueillir pour ce tout premier numéro de l'interview. Alors, je rappelle que tu es directeur général adjoint de SIA Habitat, même si on s'en a bien parlé. En tout cas, merci à vous d'avoir été avec nous pour ce tout premier numéro de l'interview. C'est une émission qui est désormais disponible en podcast sur notre site, sur nos applications et sur tous vos agrégateurs de podcasts. Et on se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Allez, à plus.
L'interview MyImmo, Corentin Brabant sur Radio Immo.